c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective, où nous sommes en train de nous émanciper collectivement pour vivre notre plein potentiel comme un éveil. Cet épisode dédié au menton relevé est une manière de dire merde à l'échec. Commençons par mettre les pieds dans le plat, quitte à écouter ce nouvel épisode qui approche de la fin de la saison 6, eh bien, faisons en sorte qu'il soit concret, faisons en sorte qu'il soit pragmatique, parce que Les Doigts dans le Miel s'achève, en tout cas s'achève bientôt sur les 6 premières saisons qui ont permis de lancer eh bien, le tremplin de son existence, puisque la saison 6, la conscience collective, est une sorte de finalité en boucle que l'on peut recouper tout simplement avec la saison 1, la bestialité. Parce que nous sommes en train de faire face à nos contradictions en croisant les mondes. Nous sommes en train de nous repositionner afin de nous intégrer, voire de gagner notre place de dominant, mais pas de cette manière si égocentrique, si égoïste surtout, que nous avions exploré eh bien, dans la saison 1, la bestialité. Parce que nous n'avons pas besoin de recommencer à aller vers une sortie de route par manque de reconnaissance liée à notre perte de repère social. Ce n'est pas nécessaire d'être à nouveau en colère pour utiliser nos échecs de vie pour avancer. Ce n'est pas nécessaire de développer une raison d'être pour progresser et d'avoir faim. Ce n'est pas nécessaire d'accepter de lâcher prise pour évoluer et d'être en paix. Ce n'est plus nécessaire non plus d'écouter le monde pour nous métamorphoser afin de servir une cause plus grande et d'exploiter notre plein potentiel. Non. Là, ce qui est nécessaire, c'est de garder la tête haute, parce que quand on fait à plusieurs, on se heurte à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, qui s'appelle le mur des autres, qui s'appelle les échecs, qui s'appelle le fait de se craquer, le fait de se foirer, le fait d'échouer, le fait de devoir recommencer encore, encore et encore, le fait de persévérer, le fait de développer sa résilience, le fait de s'emmêler les pinceaux, et le fait de ne pas toujours avoir les réponses que l'on voudrait, mais sans que cela ne nous empêche d'avancer. Alors, je voudrais pouvoir vous partager plusieurs manières de garder la tête haute, garder le menton relevé. En réalité, ce titre, il m'était venu en regardant une vidéo pendant un match de basket, c'était les Lakers donc de Los Angeles. L'équipe de basket de la ville aux États-Unis qui s'appelle Los Angeles. Et je ne sais pas le nom des joueurs, mais toujours est-il qu'à un moment, l'un d'entre eux subit un moment du match. Et puis il se retrouve à être en dehors du terrain et il revient, et puis il a la tête baissée et il trottine comme ça, un peu ballant, un peu déçu, et on sent que ça va pas bien sur le moment, mais il va devoir se remettre dans le match et ils vont devoir aller chercher la victoire ensemble. Mais lui, ça va pas. Et puis, un de ses coéquipiers qui croise sa route lève son bras, pousse son index dessous le menton de cette personne qui est relativement triste de ce qui vient de s'accomplir et lui remonte le menton. Et en réalité, ce geste tout simple, le fait de relever la tête, comme pourrait le faire un père avec son fils ou une mère avec son fils, ou éventuellement un ami avec un autre ami ou n'importe qui prendrait soin à un moment donné de quelqu'un qui vient de subir quelque chose de difficile, une épreuve, eh bien, son coéquipier lui relève la tête et ça change tout. Ça change tout en réalité. Il passe d'un statut défaitiste, il passe d'un statut où il subit, il passe d'une posture émotionnellement faible, d'une posture émotionnellement violente, d'une posture dominée, à quelque chose de tout à fait incroyable, où on revoit dans son regard la lucidité qui revient en un éclair de génie, comme s'il revenait sur Terre quelque part, après être parti loin, loin, loin dans son cerveau, après être parti loin, loin, loin dans cet échec qu'il venait d'avoir, et qui le repositionne au sein de l'équipe. Des gens comptent sur moi. D'autres personnes comptent sur moi. Je ne peux pas me laisser abattre. Moi-même, je compte sur moi. J'ai besoin de moi. J'ai besoin d'être présent. J'ai besoin de vivre l'instant. mais pas de le vivre au sens où je laisse mes émotions m'emporter. J'ai besoin de le vivre pleinement parce qu'on doit gagner ce match. Et dans ses yeux, dans son attitude, dans son regard, il arrive à balayer d'un coup d'un seul le terrain et le stade qui l'entoure, et il se rappelle, après être parti à des kilomètres dans son esprit, sur le fait d'avoir de s'être craqué à l'épisode juste avant, il retrouve l'ambiance dans laquelle il est, il retrouve la situation dans laquelle il se trouve, et c'est exactement ça, il se trouve. Il redevient lucide sur son environnement et sur le fait qu'il soit mobilisé, qu'il aille chercher la victoire avec ses coéquipiers. Donc c'est tout à fait spectaculaire parce que dans la vie, il peut se passer des moments comme ça où on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un support, on a besoin d'un collègue, d'un coéquipier, d'une personne qui soit celle qui va nous aider à relever la tête quelque part. Donc, cette personne n'existe pas toujours de manière matérielle. Ça veut dire que à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, on ne le fait pas toujours avec d'autres. Ou alors, on peut le faire avec d'autres, mais on peut compter que sur soi. Il n'y a pas ce coéquipier qui vient nous poser l'index sous le menton. Faites-le, par exemple, sur l'instant. Essayez de baisser la tête, mettez votre menton vers votre poitrine. Laissez vos yeux tomber également de manière simple, de manière relâchée, et vous sentirez que vous êtes un peu plus, je dirais pas affaibli, mais que il y a quelque chose qui retombe. Détendez-vous un instant, gardez le menton baissé, posez votre index sur le bas de votre menton, sur le dessous de votre menton, et relevez la tête. En faisant en sorte que ce soit par la pression de votre index que vous deviez lever progressivement le menton. Et vous verrez qu'à ce moment-là, votre regard, il suit une courbe ascendante qui va de « j'ai les yeux qui vont vers le bas » à « je reviens vers quelque chose de plus haut ». Et votre regard ne s'arrête pas à la ligne de l'horizon, il va un peu au-delà, il va un peu au-dessus. Et ça, en termes d'attitude, ça fait la différence. Quand on est dans la vie de tous les jours, on a tendance à regarder un petit peu vers le bas parce que c'est une manière plus relaxée de vivre au présent, dans le sens où ça nous demande moins d'efforts de concentration que d'observer notre environnement. Ça nous demande moins... C'est moins challenging en fait pour le cerveau, pour l'esprit, pour toutes les images qui peuvent nous venir. Et en revanche, quand on commence à relever un peu la tête, alors on reprend de l'attention, on a une attitude qui est plus gagnante, on est dans une dynamique meilleure, dans une dynamique améliorative. Et au moment où les yeux vont encore un petit peu au-delà, il se produit une sorte de réaction physique qui est le sentiment de, non pas de domination comme je le disais tout à l'heure, mais le sentiment d'avoir un peu plus de pouvoir, et pas le pouvoir... Qui vous fait ne plus vous sentir pissé par rapport aux autres, mais le pouvoir de faire quelque chose, le pouvoir de faire un peu plus grand, le pouvoir d'aller un petit peu plus loin, le pouvoir de continuer. Et le menton relevé, malheureusement, comme nous n'avons pas toujours quelqu'un sur qui compter, eh bien, il y a des fois où on garde le menton levé, et le menton baissé. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte d'une chose qui est certaine. L'exercice que vous avez peut-être fait juste avant vous est vachement utile à ce moment-là, parce que dans ces conditions, on se rend compte qu'en réalité, on a toujours eu quelqu'un à nos côtés. On a toujours eu cette personne sur qui on peut compter. Et cette personne, c'est nous. Cette personne, c'est nous-mêmes. Pour garder le menton relevé, la première personne sur qui on doit être en mesure de compter, c'est pas les autres, c'est soi. Parce qu'en étant responsable de son attitude, en étant conscient que la première personne à pouvoir faire quelque chose pour notre situation, c'est pas l'État, c'est pas les parents, c'est pas la famille, c'est pas les potes, c'est pas notre femme, c'est pas notre mari, c'est pas nos enfants, c'est nous-mêmes. Et cette démarche, elle est biaisée par notre environnement social, parce qu'on se repose sur le collectif pour pouvoir en faire un petit peu moins. Alors, je dis ça un petit peu comme on poserait un cheveu sur une soupe, Ou une cerise sur un gâteau, voilà, si vous trouvez ça plus joli, plus gustativement parlant, pour ne pas avoir de cheveux dans votre, de vos aliments. Mais il y a quand même une réalité qui fait que on finit par se reposer sur le statu quo et sur notre environnement social pour se développer. Alors que nous sommes la première personne responsable de ce qui nous arrive, on a tendance à se rabattre sur les autres. Mais les autres, pas dans un sens hyper constructif, pas dans un sens où on va de l'avant, pas dans un sens où on tente de faire de nouveau, on tente d'innover, pas dans un sens hyper challenging, dans un sens où, ok, c'est bon, ils sont là, je peux me relâcher. Ben oui, mais si tout le monde fait ça, il se passe quoi? Le niveau diminue, le niveau d'attention diminue, le niveau d'objectif diminue, le niveau de challenge diminue. Bon, oui et non, dans le sens où on a tous nos difficultés, etc. Mais je repenserai à cette paraphrase d'Elon Musk, qui est la personne la plus riche du monde en ce moment, qui était que le monde souffre de plein de problèmes et qu'on n'a pas le temps de régler les petits. Il faut régler les gros. Il faut régler les problèmes qui touchent des millions et des milliards de personnes. Et en l'occurrence, ça me fait penser à Pierre Rabhi, que je vous invite à découvrir, qui est à la fois philosophe et... Je vous invite à le découvrir. C'est quelqu'un de très simple et en même temps très complexe, parce qu'il a une manière de s'exprimer qui reflète plusieurs niveaux de lecture et d'écoute à travers lesquels on peut se plonger grâce à son expérience, à une sagesse acquise, à des fréquentations aussi qui l'ont amené à développer cette pensée, je dirais plus, cette pensée au menton relevé, qui disait « la société ne ressent pas ». Alors je paraphrase à nouveau, je vais adorer les paraphrases, je vais me faire... qui disait du coup la société ne ressent pas, pour savoir ce qui ne va pas dans le monde, j'écoute mon corps et je regarde où j'ai mal. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est comment est-ce que mon environnement physique, mon moi physique, ma personne, moi en tant qu'être de chair et d'os, je souffre de ce que je peux constater de mon environnement, de ce que je peux y observer, de ce que je peux y vivre, de ce que je peux y expérimenter, et comment est-ce que ça se traduit sur mon empreinte corporelle. Où est-ce que j'ai mal? Est-ce que je suis tendu, j'ai les nerfs tendus à cause d'une situation stressante, auquel cas peut-être que c'est ma nuque qui va être bloquée, peut-être que je vais avoir un torticolis, j'ai une personne de ma famille pour qui c'est le cas. J'ai le témoignage d'une ancienne directrice d'une grosse société française qui disait qu'à chaque fois que son mari rentrait de vacances, il chopait une angine. Et en réalité, cette angine, elle venait du fait qu'il n'arrivait pas à exprimer qu'il n'avait pas envie de retourner au boulot. Et c'était tout à fait stupéfiant de voir comme son corps lui disait « Bah tu vois, tu bloques ta parole, tu souffres au niveau du haut de tes poumons, donc en haut de ta poitrine, et tu vas choper une angine au niveau de ta gorge qui va faire que tu vas être handicapé pendant 2 semaines à la fin de tes vacances, tous les ans, depuis 10 ans. » Et c'est quand même assez spectaculaire de voir à quel point le corps peut rejeter comme ça, un petit peu comme dans cette scène de la ligne verte où vous avez ce géant noir hyper costaud qui est condamné à mort et qui, quelque part, attrape, récupère, ingère toute la noirceur des autres et les relâche sous forme d'un nuage noir. Alors, je vous invite à soit à découvrir le livre, soit à découvrir le film qui a été récompensé d'ailleurs et pour le rôle de Tom Hanks qu'on peut retrouver à l'intérieur. Mais je pourrais également vous partager quelqu'un qui a du mal à décrocher son téléphone. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses. Quelqu'un qui a du mal à décrocher son téléphone pour rappeler parce que ça ne va pas, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, des souvenirs qui sont liés à la jeunesse, liés à l'enfance, liés à des pratiques qui sont traumatisantes, liés à des choses comme ça, des petits moments des fois qui ont l'air de compter pour du beurre, mais qui finissent par nous rattraper dans la vie adulte et qui nous mènent face à nos contradictions. J'ai un travail commercial et je suis incapable de décrocher mon téléphone. Ah bah merde! Ah bah pardon! Ah bah excusez-nous du peu! Mais tu vas décrocher ton téléphone, oui ou non? Parce que si tu le fais pas, tu dégages! Ah bah oui, mais là, là tu vois bien que j'arrive pas. C'est comme un lézard se mettrait à bégayer devant un chien de prairie prêt à le dévorer, tout simplement, et se mettrait à se figer. Vous voyez un peu l'utilité. Alors peut-être que dans la nature, ce mécanisme sert de défense et de survie, mais dans l'environnement professionnel, par exemple, ou bien même si c'est pour prendre un rendez-vous avec un médecin, eh bien ça devient une véritable contrainte et ça devient un de ces moments où vous pouvez baisser la tête, par exemple, et où vous avez besoin que vous-même vous releviez le menton parce qu'il n'y a que vous pour comprendre ça à l'instant T. En revanche, c'est là où ça devient intéressant, c'est que on n'est pas du tout seul. On se sent seul, mais on n'est pas du tout seul. Alors oui, il y a nous pour nous relever la tête. Et puis j'ai des dizaines d'exemples comme ça dans la vie de tous les jours qui font que on a des souffrances physiques qui émergent de nos souffrances mentales, spirituelles, émotionnelles et qui sont transposées dans la réalité par nos ressentis physiques. Et j'en ai des tonnes, mais on n'est pas seul. La preuve est que je viens de citer trois exemples qui font que vous pourriez être dans l'un de ces exemples. C'est d'une banalité sans nom, c'est d'une banalité sans fin, dans le sens où ça, n'importe qui peut le comprendre, peut le saisir. Donc nous ne sommes pas seuls dans le sens où nous avons l'impression d'être seuls parce que nous nous sentons incompris par les gens qu'il y a autour, mais tout simplement parce que nous n'osons pas dire ce qui se passe. Et parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Donc on ne sait pas mettre de mots, on n'assume pas de mettre de mots, et en fait on n'assume pas de mettre de mots, ce qui a pour conséquence de ne pas comprendre le moment qui se passe, et donc qui nous fait garder la tête baissée pendant de nombreuses minutes parfois, voire des jours, voire des semaines, voire des mois et même des années. Et ça, c'est juste pas possible. Bien sûr que si, c'est possible, mais c'est pas possible au sens où... Mais comment voulez-vous progresser si vous n'affrontez pas vos contradictions ? Alors ça peut demander du courage, oui, mais réécoutez dans ce cas-là l'épisode 295 ou 93 plutôt, la peur dans ma tête. La peur est dans ma tête, la peur est dans votre tête, la peur n'existe pas. La peur est une réaction biologique liée au fait de prévenir d'un danger ou d'une situation dangereuse pour notre survie. Mais dans un environnement où on a un toit sur sa tête et où on a de quoi manger tous les jours, quand vous avez peur de décrocher le téléphone, qu'est-ce qui se passe ? On va vous tuer ou quoi ? C'est pas vrai. Quand vous avez peur de rentrer de vacances pour reprendre le boulot, qu'est-ce qui se passe ? On va vous tuer ou quoi ? Bah non. C'est aussi simple que ça. Et cette phrase est violente, on va vous tuer. Mais parce que oui, on a l'impression qu'on va souffrir, que c'est terrible, qu'on s'est torturé dans ces conditions-là. Donc, être capable de compter sur soi, dans un moment où on a besoin de passer à l'action pour affronter nos contradictions, non seulement y faire face, mais passer au travers s'il le faut, les fracasser sur un rocher, être limite violent avec sa violence pour la prendre à bras le corps parce que nous sommes capables de faire ça. Alors il y a tout un tas de méthodes possibles et imaginables pour le faire en douceur. Parfois pour s'attaquer plutôt au processus que de manière frontale, c'est-à-dire au processus de la peur, au processus de déblocage, au processus de la tristesse, au processus de la mélancolie, au processus de la déception, pour revenir vers quelque chose de plus fort, de quelque chose de plus puissant. Parce qu'on peut traiter les problèmes à la racine, on peut régler les problèmes à la racine. Il y a aussi ce genre de moments où il faut être en mesure, non pas de passer au-dessus, ou à côté, ou en dessous, ou de faire des petits trous, et puis de voir comment ça évolue. Non, il y a des fois, il faut être en mesure de passer à travers la glace et de se dire, waouh, mais tout ce dont je souffrais, c'était mon propre reflet. Tout ce dont j'avais l'impression de me retrouver... tout ce quoi, derrière, j'avais l'impression de me retrouver bloqué, c'était que moi. C'était que moi. Seulement, avec toute mon imagination, avec toutes mes pensées, avec toutes mes émotions. Et donc c'est très lourd, ce reflet il est puissant, ce miroir de soi il est extrêmement fort. Et c'est lui qui relève la tête, c'est moi qui suis tout petit. Alors comment est-ce que je peux relever le menton pour faire en sorte que lui, à son tour, mon reflet, devienne tout petit? Comment est-ce que je peux le ridiculiser? Comment est-ce que je peux m'autoriser à vivre pleinement? Eh bien, a priori, on l'a déjà vu dans la saison 4. On l'a déjà vu dans dans la saison 5. La saison 4, l'appel. La saison 5, le potentiel. On l'a déjà vu dans la saison 3, la fin. Eh bien, en réalité, c'est encore une situation vers laquelle on se dirige parce que ça se répète encore et encore et encore. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la fin de la saison 6, elle est dédiée à l'action. On ne remplace pas l'action par des pensées. On peut faire des actions malignes. On peut faire des actions planifiées. On peut faire des actions stratégiques. On peut faire des actions qui vont avoir des répercussions dans le temps. Elles ont toutes des répercussions dans le temps. Des répercussions plus ou moins grandes, avec une plus ou moins longue traîne. C'était un des épisodes précédents. La longue traîne, épisode 294. Eh bien, ces espaces de pensée-là ont tout à fait leur place quand on est capable de proposer une vision, quand on arrive à expliquer sa mission de vie. Mais il n'empêche que si vous êtes incapable d'agir pour le faire, niet, nada, que de poisson, rien, zéro. Il n'y aura pas de résultat, sinon celui que vous êtes quelqu'un d'extrêmement brillant et d'intelligent, auquel cas vous aurez assumé vous être masturbé intellectuellement parlant, vous êtes fait du bien au cerveau, avoir réussi à trouver tout un tas d'explications logiques, rationnelles, spirituelles, mentales, psychologiques, enfin bon, bref, tous ces mots qu'on triple au Scrabble qui font que des esprits brillants peuvent discuter pendant des heures de la vie et du sens de la vie, du sens de leurs actions, du sens de ce qu'ils font de leur existence sur la planète Terre. Et il n'empêche que cette planète Terre, elle bouge par les gens qui font. Et on dit la chose suivante, les idiots sont bien heureux. c'est pas faux. Les idiots ne se posent pas beaucoup de questions. Les idiots ont cette chance de ne pas avoir à beaucoup réfléchir. Mais ils font beaucoup. Et ils peuvent faire leur dizaine de si. Mais repensez à ce film absolument magnifique où Tom Hanks d'ailleurs joue le rôle principal et qui s'appelle Forrest Gump et qui met en avant une forme de courage et de situation continue où il a en permanence le menton relevé même quand il est triste parce qu'il est un peu idiot parce que c'est quelqu'un qui est vraiment un peu idiot. Mais il fait systématiquement, tout le temps, même quand il a peur, même quand il ne va pas bien, même quand il risque de mourir, parce qu'il pense que sauver ses amis vaut la peine, parce qu'il pense que ça vaut le coup de respecter sa parole, parce qu'il pense que c'est mieux de faire comme ça, parce qu'il n'a pas peur d'exprimer ses sentiments devant des milliers de personnes rassemblées pour une déclaration sur la paix pendant la guerre du Vietnam, parce que c'est quelqu'un qui s'engage corps et âme, au sens où il se dédie littéralement à ses activités, mais aussi en se laissant porter par le présent. Et mine de rien, c'est probablement une des plus belles leçons que l'on peut tirer du film, en tout cas en y réfléchissant comme ça en live, c'est qu'il vit au présent. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Bien sûr qu'il souffre de plein de maux et de plein de maux, mais il fait. Il vit. Et Forrest Gump est quelqu'un de vivant. Mais de vivant au présent. Et ça fait la différence entre lui et son ami qui finit par devenir sa femme. Qui, elle, est en permanence tourmentée. Qui le malmène. Qui ne le respecte pas. Et qui finit quand même par se tourner vers lui. À un moment où elle est un peu plus prête. Et on est nombreux comme ça à avoir à mettre du temps pour nous sentir prêts. Mais en réalité, nous n'avons jamais été prêts parce que nous ne sommes jamais autorisés à nous dire que nous étions prêts. Parce que nous avons toujours cherché, là je parle probablement pour les hypersensibles, pour ces gens qu'on appelle les philocognitifs, les zèbres, les multipotentiels, toutes ces personnes qui ont la pensée facile, qui ont un flot de pensée qui peut battre leurs fenêtres en permanence, quoi. C'est vraiment des fois extrêmement... c'est vraiment comme une cascade où ça ne s'arrête pas. C'est un peu les chutes du Niagara de la pensée. Eh bien, c'est absolument génial. Et c'est difficile de composer avec, parce qu'on ne nous apprend pas à faire avec. Et on se retrouve souvent seul, pris dans sa barrière mentale, en mettant des années et des années à nous sentir un peu plus près, alors qu'en réalité, nous tentons, quand on cherche à y arriver, nous tentons de trouver quelque chose que l'on possède déjà. Ce n'est pas en trouvant plus de connaissances, ce n'est pas en trouvant d'autres réponses que l'on finit par trouver sa réponse. La réponse, elle est toujours sous le bout de notre nez, sauf qu'on ne s'autorise pas à écouter. On ne sait pas écouter. Et là, je vous invite à lire, par exemple, Paulo Coelho, La voix de l'archer, parce que l'archer dit, mais pour tirer à l'arc, je peux vous l'apprendre en une heure. Mais la voix de l'archer, vous pouvez mettre toute une vie à la trouver. Et donc, pour le trouver, il ne s'agit pas de rencontrer nécessairement d'autres archers. Il s'agit de rencontrer d'autres personnes qui ont du plaisir dans ce qu'ils font. Et donc, c'est assez drôle de voir cette espèce de paradoxe où on se mène la vie dure pour trouver des réponses qui sont sous le bout de notre nez et pour lesquelles on n'a pas besoin de se tourmenter. On n'a pas besoin. C'est pas nécessaire. Mais on s'en donne à cœur joie, parce qu'on préfère avoir souffert, vécu, avoir bourlingué, expérimenté des choses et eu notre lot de mentons baissés jusqu'à être en mesure d'accepter qu'en fait, c'est là, parce qu'on a gagné en maturité. Et là, à ce moment-là, on est plus prêt à faire valoir quelque chose d'omniprésent, de quasiment symbiotique avec notre environnement, qui est de symbiose. On arrive à accepter le fait de vivre en harmonie avec notre environnement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça fait la différence. Et c'était Margaret Thatcher qui disait, il me semble que c'était il y a quelques dizaines d'années, peut-être en 94 ou quelque chose comme ça, au sujet de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni et puis de l'Europe. Donc elle exprimait à ce moment-là, je crois, sa volonté de non-attachement à l'Europe en employant tout un tas de formules extrêmement bien tournées et surtout très incisives. Et il y a un passage pendant lequel elle exprime le fait que quand la liberté est un combat qui vaut la peine d'être mené et qu'il faut savoir, pour être libre, se battre contre des gens qui nous empêchent de l'être. Alors, il y avait des mots durs aussi dans cet environnement. Et pour le coup, le fait d'avoir le menton relevé nous permet de mieux nous battre déjà contre nos propres démons, parce que nous avons tous nos combats intérieurs. Et justement, accepter de vivre en paix, de lâcher prise pour évoluer, est un moyen de vivre mieux, de vivre en harmonie. Accepter de nous battre pour des causes qui sont les nôtres, pour des causes qui valent la peine d'être vécues, d'être menées, qui valent la peine de s'impliquer, de s'investir, de s'engager pour les défendre, comme notre liberté, sont des causes qui valent la peine de surmonter les affronts de la vie de tous les jours et également de vivre au présent, de faire les choses à la manière de Forrest Gump et avec l'intelligence de Newton, j'en sais rien moi, mais de composer avec un certain nombre de déterminants de telle sorte que l'on arrive à construire eh bien, notre propre palette de couleurs en quatre dimensions, c'est-à-dire aussi dans le temps et l'espace, d'un point de vue géographique et humain. Mais je vous invite pour ça à écouter eh bien, d'autres épisodes de la saison 6 où j'explique un peu mieux l'expression des idées, le mouvement perpétuel, la loi de la vitesse d'innovation, les voyageurs du temps, les arborescences, les fées ricochets, les miroirs temporels dans la moitié de l'épisode, des épisodes 270 à 280. Au milieu de la saison 6 plutôt, autour de la conscience collective, entre l'émergence d'une réceptivité aux signaux du monde et notre capacité à les saisir pour faire avec. Mais ce qui compte, c'est encore une fois de faire avec. Et sachez par exemple que les militaires, j'ai une pensée pour la photographie d'un militaire chinois qui est connu pour ce qu'elle montre, utilisent des stratagèmes pour garder le menton relevé. Par exemple, pendant qu'ils sont en défilé ou en représentation pendant des heures et des heures sur un soleil extrêmement brûlant, eh bien, avec leur costume qui est millimétreusement plié sur eux-mêmes, eh bien, ils plantent une petite aiguille à coudre dans leur col, de telle sorte que si à un moment ils commencent à flancher, s'ils ont un coup de fatigue, un coup de barre, qu'ils ne se sentent pas bien, au moment où ils vont baisser la tête, eh bien, ils se piquent, et que ce pic les réveille, leur permette de se remobiliser au service d'une cause beaucoup plus grande, celle d'être digne de faire partie de l'armée, par exemple, de leur pays. Eh bien, c'est un excellent stratagème. Un petit peu dangereux au risque de vous planter le cou dans l'aiguille, de saigner, mais ça fonctionne. Et donc, c'est une manière, parmi bien d'autres, de garder le menton relevé. Donc, je ne sais pas si vous avez quelqu'un sur qui vous appuyez dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un de différent de vous, sur qui vous pouvez compter à ce point que vous savez qu'il pourrait agir comme ce basketteur qui met son index sous le menton de son coéquipier, qui lui relève la tête jusqu'à ce qu'il récupère cet éclair de « Waouh, mais qu'est-ce que je fous là ?» Je me reconcentre et je me remobilise au service de mon match. Eh bien, si vous avez cette personne, c'est parfait. Parce que vous savez désormais que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que vous ne pouvez pas vous reposer sur la présence de quelqu'un, la présence physique de quelqu'un, pour faire ce genre de choses. Vous pouvez vous reposer aussi sur votre imagination pour imaginer cette personne, vous accompagner de manière imaginaire, projetée, pendant des situations difficiles. Qu'est-ce que mon meilleur ami m'aurait dit, par exemple, pendant ce moment difficile, pour me faire relever la tête? Mais il faut encore y penser. Vous êtes le responsable, ou la responsable plutôt, de ce qui vous arrive. Vous êtes responsable de relever la tête et de vous battre pour des convictions que vous portez. Vous avez la responsabilité que de faire les choses que vous croyez justes au service d'une cause qui vous dépasse. Et cette cause est collective, parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des personnes qui vivons ensemble. La différence, elle est dans la représentation de cet ensemble. Est-ce que c'est un ensemble d'individus qui sont là les uns avec les autres, ou est-ce que cet ensemble, c'est une équipe? Et puisque j'ai pris l'exemple du militaire chinois, sachez que ce qu'on dit par exemple de l'armée des États-Unis, c'est une équipe d'équipes. Et ça fait la différence. Le corps des Marines, on ne parle pas de corps pour rien. Je vais repenser à cet exemple que j'avais utilisé il y a déjà un certain nombre d'épisodes, je pense que c'était pendant la saison 5. Mais c'est que vos deux mains se touchent sans que vous ayez besoin de les joindre. Parce que depuis vos mains vers vos poignets, en passant par vos coudes, vos épaules, votre buste, puis votre autre épaule, votre coude, vos avant-bras, vos poignets et la deuxième main, eh bien en réalité, vos mains sont déjà attachées l'une à l'autre. Donc, d'une certaine manière, elles se touchent dans une forme où nous n'avons pas l'habitude de l'exprimer. Et c'est tout à fait cocasse, parce que nous sommes prisonniers de nos propres modèles mentaux et de nos habitudes, et que celles-ci peuvent valoir la peine d'être changées pour changer le monde. C'est à partir de nos habitudes, des petites choses que l'on ressent, de notre perception du quotidien, que l'on peut être en mesure de mieux écouter les signaux qui nous sont envoyés, eh bien, dans notre vie de tous les jours, à notre échelle, à échelle locale, ou à plus grande échelle, à échelle globale, pour arriver à joindre les deux bouts et nous attaquer à une cause plus grande. Alors, c'est pourquoi je vous invite dans l'épisode prochain à écouter La main de fer et le gant de velours, ce sera le titre de l'épisode prochain, parce que dans ces conditions-là, une fois qu'on est capable de garder le menton relevé, une fois qu'on est capable de saisir son index et de nous relever la tête même quand ça va pas, même quand on est malade, même quand on a perdu quelqu'un, même quand on a subi une perte financière élevée, même quand on a perdu un projet de maison, même quand on n'a pas réussi à avoir son enfant, même quand plein de choses, on a toujours la possibilité de relever la tête. Je vous invite à partager votre pensée de vive voix sur l'application Encore sur Spotify ou bien à noter le podcast 5 sur 5 sur l'application iTunes, ce qui pourrait me permettre de l'aider à le propager et à de faire grandir la communauté. Il y a plus de 6000 personnes qui écoutent le podcast désormais dans une quarantaine de pays et ça, c'est absolument incroyable. Donc, je vous remercie pour votre écoute. On approche de la fin de la saison 6 et de l'action. Il nous reste désormais 2 épisodes afin d'y arriver et de synthétiser du coup toute cette épopée de 300 épisodes des Doigts dans le Miel qui ont été pondus à la base, je le rappelle, en 6h30. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.